Alors, quand l'abbé Joseph nous a demandé de faire une conférence sur le thème « Comment être missionnaire et évangélisateur en Suisse romande », on s'est dit « Qui sommes-nous pour faire une conférence sur ce sujet ?» Mais ce qu'on va essayer de vous faire, c'est de vous partager nos témoignages de la mission qu'on mène ici et qu'on a menée ailleurs. Et j'espère que ça vous parlera pour vous qui êtes aussi finalement missionnaire en action au sein de la paroisse d'ici.
Alors pour commencer, on peut se poser clairement la question, mais qu'est-ce qu'être missionnaire finalement ? Alors moi j'ai beaucoup aimé la réponse du père Will Conquet, qui est prêtre missionnaire pour les missions étrangères de Paris et qui participe au film « Les baroudeurs du Christ ». Un jour, son barbier marocain lui pose justement la question « Mais être missionnaire, ça veut dire quoi ?» Et l'abbé Will lui a répondu « Un missionnaire, c'est quelqu'un qui a reçu une mission. » Ça paraît normal. Mais il ajoute « Dieu nous a créés avec une mission, et cette mission, elle s'exprime dans notre baptême. Le jour de notre baptême, on reçoit vraiment la mission du Fils et de l'Esprit-Saint qui nous fait participer à la vie divine, qui fait qu'on est vraiment divinisé. Et c'est cette mission qu'on a, nous, de partager cette divinisation, la divinisation des justes, comme disaient les fondateurs des missions étrangères, qui veut dire participer à l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour être divinisé ? On se laisse remplir et on laisse l'amour de Dieu déborder en nous. C'est ce débordement qui s'exprime dans la mission. Quand des missionnaires quittent nos beaux pays pour aller aux quatre coins du monde et annoncer le règne du Christ, le règne de Dieu qui se manifeste dans la charité, qui se vit dans le service des pauvres, dans le service des malades, dans le service des indigents, dans le service de tous ceux qui ont envie d'être aimés. Voilà, ça c'est la réponse du père Will. Et nous, ça nous parle vraiment.
Alors nous, on ajouterait, après avoir vécu les deux, notre mission ici et notre mission au Chili, que missionnaire, ce n'est pas essentiellement d'aller aux quatre coins du monde, mais on a notre mission là où nous sommes. Et le Seigneur, il nous envoie chacun en mission là où on est. Donc pour différentes actions, manifester de la charité, être au service des malades, des pauvres, mais aussi de ceux qui ont envie de découvrir le Seigneur, et ou aussi ceux qui ont besoin de se sentir aimés.
Alors, on a une petite question pour vous. Qui ici est baptisé ? Eh bien, magnifique ! Ben, on est tous missionnaires ! Alors, la question, du coup, c'est plus « est-ce que je suis missionnaire ?» Mais est-ce que je laisse l'amour de Dieu déborder autour de moi ? Voilà, c'est ça la vraie question. Alors, qui on est ? Alors, l'abbé Joseph nous a fait une petite présentation. En quelques mots, quand même, on est tous les deux nés dans une famille catholique pratiquante. Mais pour moi, la foi est devenue plus personnelle à 28 ans. Une conversion à la Damas, un moment très fort où le Seigneur s'est révélé à moi. Et comme je suis scientifique, sûrement, j'ai eu besoin d'une piqûre de rappel qui a eu lieu pendant un moment de maladie.
Voilà, moi aussi, issu d'une famille catholique, avec dans la foi des passages hauts et bas. Vers l'adolescence, je pratiquais pas du tout. Au début de notre relation aussi, avec difficulté. Mais petit à petit, je me suis rapproché de l'Église. Et puis moi, c'est une conversion plutôt qu'on dit à l'Horeb, plus lent, plus légère. Et puis aussi des textes, par exemple, moi aussi, je suis scientifique. Et avant, j'avais beaucoup de mal entre la partie de la science et puis la partie de la Bible. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient en confrontation. Et puis, il y a des livres, comme je vous conseille à lire, qui s'appellent « Les Indispensables ». Et c'est des BD et qui permettent de faire un lien entre les deux. Et ça m'a beaucoup aidé pour réconcilier et se rendre compte qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont découvertes en science, qui se trouvent dans la Bible et inversement. Et voilà, ça a vraiment réconcilié quelque chose chez moi au niveau de la foi. et voilà, que la foi n'est pas l'ennemi de la raison, simplement elle l'ouvre.
Alors, suite à cette conversion, j'ai commencé à proposer ma disponibilité à notre paroisse. Voilà, j'étais assez bien formée. Dans ma jeunesse, je fais les catéchismes. Mes parents étaient à la communauté de l'Emmanuel, donc on allait à Varennes-Monial tous les étés. Et alors, j'ai découvert, parce qu'on est français, donc on arrivait un petit peu en Suisse, j'ai découvert qu'en Suisse romande, en tout cas, tout fonctionne, tout est structuré, les équipes sont en place, chacun a déjà sa place et chaque place est déjà prise. Alors au début, on sentait qu'on n'avait pas vraiment besoin de nous. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, ne pas être sûr d'être utile, ne pas trop savoir comment aider la communauté ou la paroisse, ou comment vous pouvez proposer vos services? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça?
L'accueil est compliqué.
Ouais. Alors, c'est vrai que nous, notre analyse maintenant, c'est qu'être missionnaire ici, en Suisse romande, c'est pas forcément chercher à créer quelque chose de nouveau ou prendre une place vide. C'est plutôt, on trouve, accepter d'entrer humblement dans un tissu existant. Et parfois, être là pour boucher des trous, servir, accepter d'être pas attendu, accepter de servir discrètement, là où personne peut-être voit notre action. Nous, on a fréquenté au début l'église, puis on a proposé du catéchisme. Il manquait une personne au catéchisme, on est rentré comme catéchiste. Ensuite, Elisabeth, elle a fait de l'animation au niveau des chants. Et puis on a remis au bout d'un moment les carnets de chants à jour, parce que c'était des versions. Mais c'est des petits points où on a amené finalement un petit peu notre pierre à l'édifice.
Et en juin 2018, nous sommes allés au Palais des Expositions à Genève lors de la venue du pape. Qui y était ? Nous, on y était. Alors, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être que le pape François nous a dit « Si tu veux trouver Dieu, cherche-le là où il se cache, chez les pauvres. Si tu veux trouver Dieu, cherche-le là où il se cache, chez les pauvres. » Et le chant final de cette magnifique et émouvante messe, où nous étions réunis pour prier à 40 000 autour du pape, nous a déplacés. On va vous le faire écouter.
Eh oui,
c'est un petit radio, ça.
Non, c'est pas ça.
Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour.
To use this feature, please make sure your app is running and can access the internet.
Et les mourants, allume la flamme de mon amour.
Tout ce qu'il prend avec un grand sourire.
ces paroles reflètent tout à fait notre mission de baptiser.
Voilà. Et c'est vrai que ce chant et les mots du pape, ils nous ont déplacés. Alors, en Suisse, on avait une vie tout à fait confortable, stable. J'avais un travail, tout se passait bien. Et avec les enfants, ils étaient encore jeunes, mais on avait une organisation qui tournait bien. Mais étions-nous vraiment à ce moment-là en train de vivre la mission qu'on était appelé à vivre? C'est un peu la question qu'on s'est posée. Étions-nous un peu, on parlait tout à l'heure, Elisabeth, du débordement? Est-ce que vraiment l'amour débordait en nous? Eh bien, on trouvait que finalement, pas totalement. On était heureux, mais il n'y avait pas ce débordement. Alors, c'est vrai, comme dans la phrase de Sainte Catherine de Sienne, elle dit « Si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde entier. » Alors, on n'a sûrement pas été le feu, mais en tout cas, en nous, il y a, suite à cet appel du pape, il y a un petit feu qui s'est allumé en nous et ce désir de peut-être déborder.
Donc, on a précisé cet appel. Moi, je sentais vraiment qu'on était appelé à partir en mission humanitaire.
Et moi, pas du tout. Donc, Elisabeth m'avait parlé donc de la fondation Fidesco. Donc, Fidesco, c'est pour foi et pour le co, c'est pour coopération. Donc, c'est une ONG qui a été fondée par la communauté de l'Emmanuel. L'objectif de cette fondation, elle fait un lien en fait entre les évêques à travers le monde qui ont besoin d'aide, en général de gens ayant un caractère professionnel qui les intéresse pour des missions à caractère professionnel et pastoral. Et ils font appel donc à Fidesco pour recruter ces couples et qu'on vit de donner en général 2 ans de leur vie pour l'Église. Alors, C'est un assez long chemin pour chez Fidesco. Ça a été un chemin pour nous qui a duré plus d'une année finalement. Donc ça commence par un premier entretien, des CV, un énorme dossier à remplir avec plein de questions pour justement cheminer et réfléchir. Et il y a eu le premier week-end, ce qu'on appelle la formation de discernement, qui est très intéressante. C'est un week-end qui est sur 3-4 jours. Là, il nous amène à réfléchir à est-ce qu'on est prêt à aller en mission. Alors, ils sont comme un peu ce qu'on vous dit là. En fait, en tant que baptisé, on est appelé à une mission. Mais est-ce qu'on est prêt à une mission à l'étranger ou est-ce qu'on doit être missionnaire dans notre pays, dans nos paroisses? Lors de ce week-end, il y avait des représentants de différentes organisations en France, parce que c'était en France, qui expliquaient ce qu'ils faisaient. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Mais je sentais quand même en moi que l'envie de découvrir, d'aller à l'étranger, me donnait vraiment envie.
Alors moi, au contraire, ça m'avait complètement refroidi parce que en plus de ce que Pierre vient d'expliquer, on a une formation à la sécurité, à la santé. Voilà, on partait quand même avec des enfants. Donc, il y a quand même des mises en situation de kidnapping, etc. Donc, moi, ça m'avait un peu glacée. Et j'avais plus trop envie de partir. Et puis, on a quand même continué le processus de discernement. Donc, il nous propose un processus ignatien sur 10 jours pour savoir si on dit notre oui ou pas.
Alors, on a dit notre oui. Et il faut comprendre qu'à Fidesco, en fait, ça marche comme ça. On part pour l'Église. Je pense que c'est comme un prêtre, en fait. On est prêtre, mais on ne sait pas où on va être. Donc, en fait, c'est exactement la même notion. Nous, on est dit, on est prêt à partir avec vous sur toutes les missions qui se trouvent sur Terre, en fait, qu'ils ont. Donc, on ne décide pas la destination. D'ailleurs, nous, on l'a su que 6 mois après, où est-ce qu'on partait. Et on a eu, à ce moment-là, une deuxième formation d'une semaine, justement pour apprendre un peu le fonctionnement, pour nous préparer, justement, à ce départ en mission. Mais, en effet, quand on prend la mission, la mission, c'est de partir au service de l'Église, où que ce soit.
Voilà, donc Fidesco nous a envoyé au Chili, donc on sait qu'on part au Chili, on fait du coup toutes les demandes de visa, etc. On devait partir à peu près pour Pâques, donc Pierre a arrêté son travail, on a mis notre maison en location, les enfants ont arrêté donc l'école et on devait partir, sauf qu'on était pendant la période Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup les frontières du Chili étaient fermées et on ne pouvait pas partir. Et ce qui a été beau, enfin, alors ça on le voit maintenant, mais c'est qu'à partir du moment où on a donné notre oui, on n'a plus jamais eu de doute. Et le Seigneur a vraiment été là pour nous réconforter de manière très concrète à chaque étape. Donc par exemple, un petit exemple de clin d'œil de Dieu. Donc on avait nos visas, mais donc les frontières étaient fermées et on sentait que pour pouvoir partir, on ne serait autorisé à partir que si on serait vacciné. Donc à l'époque, on était en France, on attendait, on pouvait être vacciné que si on avait plus de 65 ans. Donc on cherchait un moyen de pouvoir être vacciné. Donc on a appelé le centre de vaccination de Grenoble. Ils nous ont dit « Ah oui, mais si vous dites que vous avez une comorbidité, ils pourront vous vacciner. » Alors pour nous, ce n'était pas acceptable de mentir. Donc on lui aura demandé une autre solution. Ils ont dit « Ah, ben vous pouvez aller à la halle. » Et puis le soir, des fois, ils ont trop de doses. Donc ils vaccinent ceux qui ont envie d'être vaccinés. Très bien. Donc le soir, on part. Ça a fermé à 18h. Donc vous savez que les doses supplémentaires étaient à partir de 18h. Et donc on arrive, il y avait une file de toutes les personnes qui attendaient parce qu'ils avaient des rendez-vous. Il y avait une autre grande file. Et il y avait un pompier qui était là et qui faisait un petit peu la circulation. Puis je suis allée le voir, puis expliquer la situation. Je dis, on doit partir en mission au Chili dans une fondation qui s'occupe d'enfants. On nous a dit qu'on pouvait avoir peut-être des doses supplémentaires. Où est-ce qu'on attend? Donc il a dit, voyez la grande file, vous pouvez attendre. Il y avait énormément de monde. Il a dit, il y a peu de chances que vous puissiez avoir une dose ce soir, mais... Bon, c'est pas grave, on va attendre, il faisait beau, bon, très bien. Donc on attend et à peu près 15 minutes après, il y a un monsieur qui remonte la file, un vigile, et qui criait comme ça, « Qui part au Chili? Qui part au Chili ?» Alors arrivé à notre hauteur, je dis « Nous, on part au Chili ?» Il dit « Non, sérieux ?» Je dis « Oui, donc on avait un papier de Fidesco. » Et il dit « Très bien, suivez-moi. » Donc je dis mais merci, pourquoi ?» Il dit « C'est vraiment beau ce que vous faites. » D'accord, mais pour les Chiliens, c'est beau. Je dis, vous êtes Chilien? Il dit, non, pas du tout, je suis Algérien, mais c'est super. Et du coup, là, il n'était pas encore 18h. Et il rentre dans la halle, il dit, laissez-les passer, ils sont prioritaires. OK, donc il nous met un bureau, il nous demande nos papiers, numéro de sécurité sociale, enfin tout ce qu'on nous demande en France qu'on n'avait pas, parce que ça fait des années qu'on n'y était pas. En 15 minutes, les papiers étaient faits, on était vaccinés. Et voilà, et des choses comme ça, on en a eu plein. Donc c'était, on sentait qu'on, on était les bras, mais on partait pas seul.
Voilà, donc c'est vrai que ça a été, il y avait des petits clins d'œil du Seigneur tout au long de cette attente, parce que finalement moi j'ai quitté mon travail en mars, on a quitté notre maison en mars. On a été un peu hébergé chez mes parents. Après, on avait une maison de famille qui n'était pas utilisée, donc on y a vécu jusqu'au mois de juillet parce qu'en fait, on était les frontières étaient bloquées à ce moment-là. Mais on a eu plein de petits points que le Seigneur était avec nous, était là pour nous soutenir.
On est parti en juillet finalement.
Ouais, on devait partir en avril. Donc là-bas, on est arrivé, ça a été aussi assez compliqué parce qu'on a dû être en confinement pendant 10 jours. Puis finalement, on est arrivé à la fondation. Donc on est arrivé à une fondation qui accueillait des enfants et des jeunes placés sous protection juridique. Donc c'était une fondation plutôt grande puisqu'il y avait plus de 300 employés et une centaine de jeunes en résidence, ça veut dire qu'ils étaient en permanence dans la fondation. Nous, on était au niveau de la résidence, des résidences des garçons, donc c'était à peu près 60 garçons qui étaient présents sur 4 maisons et nous, on vivait avec eux.
Alors, quand on est arrivé, ils étaient un petit peu en réorganisation parce que c'était la toute fin du confinement. Mais on a quand même vu au bout d'un certain temps le directeur et il nous dit qu'il n'a pas de mission pour nous, il n'a rien à nous faire faire. Et là, on se dit c'est une blague là. Là, on est revenu en Suisse romande là. Donc au début, on a pelé des patates, des kilos de patates. En fait, on a aidé en cuisine. On s'est dit, bah, c'était une manière. Voilà. À l'origine, on parlait pas espagnol. Donc quand on a su qu'on partait au Chili, on s'est mis à l'espagnol intensif. Mais en fait, on s'est dit, les employés qui ont un peu du temps pour parler avec nous, ben, c'est les cuisinières. Et en plus, on se rendait utile. Donc, c'était un moment très chouette.
Voilà, bon, petit à petit, hein, on s'est créé notre mission. Et puis, on a servi la fondation sur différents points. Moi, par exemple, je devais travailler au niveau des ressources humaines. Alors, je ne pouvais pas tout à fait faire des entretiens d'embauche comme mon prédécesseur avait fait, mais il parlait tout à fait espagnol et était DRH. Mais moi, je me suis plus occupé de la partie informatique des ressources humaines. Donc, j'ai mis en place différents logiciels pour faciliter le traitement des documents et aussi l'organisation des emplois du temps du personnel. J'ai aussi pas mal aidé au niveau de l'électricité, des réparations dans les maisons, parce que dans la fondation, c'était des jeunes qui avaient entre 13 ans et 24 ans, et ils ont eu des vies dures. S'ils sont sous protection juridique, c'est que en général leurs parents, leurs proches leur ont fait du mal. Donc ils avaient tendance à ce qu'on appelle décompenser, ça veut dire facilement à s'énerver. Et en général, le matériel recevait autant les portes, les fenêtres et tout ça. Donc, j'ai pas mal fait de bricolage là-bas pour réparer, faire de l'électricité, pour rendre leur vie plus agréable.
De mon côté, l'évêque donc de Concepción nous avait confié qu'il recevait énormément de lettres de la part du voisinage de la fondation. Qui prenait un petit peu cette fondation comme une prison pour enfants et qui voulait qu'elle ferme. Et nous, on vivait à l'intérieur et on voyait vraiment les employés qui étaient dédiés, qui mettaient tout leur cœur à l'ouvrage, qui faisaient énormément de choses pour ces jeunes, avec beaucoup d'inventivité, beaucoup de dévouement. Et du coup, je sentais que c'était vraiment important d'améliorer cette communication. Donc, on a relancé le Facebook de la Fondation pour vraiment mettre en lumière toutes les belles choses qui étaient faites ici pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes aussi. Voilà. Alors, ça n'a pas été si simple parce que le ministère de la Protection de l'Enfance nous ont mis quelques bâtons dans les roues au début. Mais petit à petit, les choses se sont développées. Voilà, notamment, donc c'est Papa John's Pizza qui a commencé. Un jour, ils ont offert des pizzas pour une maison. Et donc, évidemment, on les a mis sur Facebook en les hashtagant, etc. Et ils ont été hyper touchés de ça. Donc, ils ont répété à plusieurs maisons. Et d'autres entreprises ont vu ça et ont commencé à faire des dons de télévision, d'habits, même des entreprises de glace qui venaient dans la fondation pour donner les glaces. Enfin, voilà, énormément de choses comme ça. Donc, on avait beaucoup de dons. Donc, après, ma deuxième mission, c'était la gestion des dons. Voilà. Et il y a aussi des écoles, des lycées qui ont demandé à faire des partenariats. Donc, on a fait des journées de foot. Ils sont très, très doués pour les peintures murales. Donc, voilà, on a fait en collaboration avec des écoles les peintures sur des murs pour retaper un petit peu des maisons.
Voilà, donc ça, c'était tous les deux un peu notre mission professionnelle. On avait aussi une mission pastorale. La fondation avait été créée dans les années 40 suite à un énorme tremblement de terre qu'il y avait eu dans la région de Concepción, donc au Chili. Et un prêtre, Monseigneur Inostroza, c'est ça, avait décidé de recueillir les jeunes qui vivaient dans la rue et à l'aide de mamans du quartier, les avait nourris, habillés, logés, et puis ils avaient monté cette fondation petit à petit. Mais elle avait été fondée sur un élan d'un prêtre pour s'occuper de ces jeunes, et elle a perduré, cette fondation. Alors cette fondation, à ce moment-là, à un autre moment où nous, on est arrivés, c'était maintenant une fondation qui était financée par l'État. Donc on avait, c'était une fondation laïque, dans le sens que le Chili est plutôt en pleine décristallisation, et donc la fondation voulait garder un aspect catholique de ses origines et de son éthique. Et donc nous, on a eu comme mission justement d'animer des sessions mensuelles de pastorale auprès des jeunes et des travailleurs. Donc au niveau des travailleurs, c'était plutôt des séances de team building. Alors au début, les travailleurs étaient plutôt récalcitrants en grande majorité, mais ils sont venus. Et puis notre grande surprise, c'est que les plus récalcitrants étaient finalement contents à la fin de venir régulièrement à nos sessions. Alors on faisait un mélange en fait. On abordait des thèmes de travail en équipe sur la gratitude, le pardon, l'espérance, l'écologie, les talents. Et en fait, on peut tout le temps les relier à la Bible. Donc en fait, nos sessions étaient construites de la manière suivante. Il y avait une partie où on lisait par exemple un texte de la Bible, après une réflexion sur ce thème, et puis différents petits jeux et choses comme ça. Et on faisait ça aussi avec les jeunes. On a aussi fait, exemple pour Laudato Si, on a mis en pratique en invitant les jeunes et puis chaque programme à planter un arbre. Donc on s'était rapproché du ministère de l'écologie, de la forêt, qui nous avait fourni des arbres endémiques, qui avait une mission de replanter des arbres endémiques. Et donc chaque jeune a pu planter un arbre endémique. On avait un très grand terrain, donc c'était chouette. Et puis, dans la fondation, il y avait aussi une chapelle. Alors, elle avait été pas mal dégradée par le temps. Et donc, on a pas mal travaillé pour la remettre en place et puis relancer les activités, les messes dans la chapelle.
Voilà, ça, c'était nos missions à la fondation. On nous a aussi donné une mission à notre paroisse, donc à l'extérieur, on allait à la messe à l'extérieur de la fondation, puisqu'il n'y avait pas de messe au début quand on est arrivé. Et notre prêtre de paroisse nous a demandé de préparer au sacrement quatre catéchumènes. Donc c'était assez drôle, enfin surtout la première fois que ça s'est passé. Donc on aidait à la paroisse pour faire du nettoyage, du jardinage. Et Pierre était en train de faucher, et le prêtre vient le voir avec quelqu'un d'autre et il lui dit « Ah, Pierre, je voudrais que vous prépariez ce jeune au catéchuménat. » Et Pierre a répondu « Mais vous êtes sûr qu'on est bien placé pour ça ? Parce qu'on ne parle pas très bien l'espagnol. » Elle a dit « Oui, oui, je suis sûre que vous êtes bien placé pour ça. » D'accord. Et voilà, donc ça, c'était vraiment un magnifique parcours. Pierre vous en dira un tout petit peu plus après. Pour moi, je pense que ça a été une chose qui a été le plus marquant. Voilà, un an et demi de préparation avec ces trentenaires qui ont à la fois soif et à la fois une motivation vraiment sans faille. C'était vraiment inspirant. Voilà, puis à la paroisse, on aidait pour la lecture, le nettoyage, puis le jardinage. Mais la mission la plus forte... Enfin, la plus importante, en tout cas, à la fondation qu'on a eue, c'était être une famille au milieu de ces jeunes. On nous disait régulièrement qu'on était un point fixe, en fait. Les employés, ils se relayaient. Et là, ils faisaient 8 heures, semaine, enfin, week-end, nuit, etc. Et ils changeaient souvent. C'était assez dur. Enfin, comme vous pouvez imaginer, des jeunes entre 13 et 24 ans qui ont vécu vraiment des choses difficiles. Donc, c'était voilà, des bagarres, comme Pierre a dit, des décompensations. Et du coup, bah, nous, on était un petit peu là. Voilà.
Voilà, donc les activités, c'était réparation de vélo. J'avais des jeunes, des fois, qui venaient tous les jours réparer leur vélo. Bon, souvent, c'était pour passer un moment aussi, pour papoter. On a fait du jardinage un peu avec eux. On a mis des plants de tomates devant le jardin. Ils venaient récupérer des tomates cerises. Il y avait aussi une organisation de sport, donc on participait avec eux et puis nos enfants avec. Et on leur a proposé aussi du soutien scolaire pour ceux qui le désiraient en maths ou en anglais. Voilà.
Voilà, donc on était parti pour nous mettre au service des plus pauvres. Et mais vous pourriez vous demander, mais en quoi ces jeunes, finalement, étaient-ils pauvres? Parce qu'ils avaient un toit, ils mangeaient plusieurs fois par jour. Au Chili, ils mangeaient 6 fois par jour. Alors, on peut se poser la question, mais voilà, qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce qu'être pauvre, finalement? Je vous pose la question.
Pauvre en amour.
Ouais, exactement. Parce que le pape nous demande d'aller auprès des plus pauvres. Mais c'est qui les plus pauvres, effectivement? Tout à fait. Ben exactement. Donc, il peut y avoir les manques essentiels, des besoins vitaux, la nourriture, le logement. Mais la pauvreté, elle peut être beaucoup plus profonde. Et aussi, c'est aussi manquer de certains besoins fondamentaux, pour être heureux. Alors on peut se dire, mais quels sont les besoins fondamentaux pour être heureux? Alors, à Harvard, ils ont fait une très grande étude qui dure encore aujourd'hui et qui a commencé en 1938. Donc, sur des centaines de personnes, leurs épouses, leurs enfants, et qui ont été suivis régulièrement. Et donc, cette étude se poursuit encore. Et quels sont les résultats de cette étude sur quels sont nos besoins fondamentaux pour être heureux?
Alors, l'étude conclut actuellement, après tant d'années de recherche, qu'en fait, il y a besoin de trois besoins fondamentaux pour être heureux. Et tout le reste est un peu superflu. Alors, ces besoins, évidemment, se vivent différemment suivant les personnes. Alors, le premier besoin, c'est la sécurité ou la stabilité. Elle concerne surtout la stabilité dans les relations familiales et amicales, et parfois aussi la stabilité financière. Quand cette sécurité manque, cela affecte profondément la personne jusqu'à son système nerveux. Donc ça, c'est le premier point, la sécurité.
Alors, deuxième point, deuxième besoin, c'est l'appartenance. Appartenir à une famille, des amis, à une communauté, à une équipe. Pouvoir se dire sur qui puis-je compter? Avec qui ai-je une relation forte? Et c'est un facteur qui est vraiment important et qui joue, donc d'après cette étude, sur notre longévité.
Voilà, et le troisième besoin, c'est le but et le sens. En fait, c'est avoir le sentiment, c'est important d'avoir le sentiment de contribuer, de se donner et de laisser quelque chose de bon derrière soi. C'est un besoin de donner du sens à notre vie. Sentir que l'on fait, que ce qu'on fait a de la valeur. Et cela touche aussi souvent la dimension spirituelle. Alors, si on regarde la pauvreté sous cet angle, en fait, beaucoup de personnes autour de nous peuvent être pauvres d'une manière ou d'une autre. Et nous aussi. Voilà, pauvres dans les relations, pauvres dans l'appartenance, pauvres de sens. Est-ce que je donne vraiment un sens à ma vie ? Et cela veut dire que pour réaliser la mission que nous étions donnés au baptême et que le pape François nous a rappelé, si tu veux trouver Dieu, cherche-le là où il se cache, chez les pauvres. Nul besoin d'aller loin. Il suffit d'être attentif et de se mettre au service autour de nous et de laisser l'amour déborder dans notre famille, dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre communauté paroissiale.
Voilà. Donc si, c'est un beau programme. Et si on revient au Chili, eh bien, ces jeunes, ils manquaient de tout ça. Ils manquaient de but, de sens, ils manquaient de sécurité affective et d'appartenance. Voilà. Donc nous, évidemment, la fondation, on leur procurait tous les besoins vitaux et on essayait aussi de contribuer à ça, voilà, qu'ils se sentent un peu plus en sécurité, et puis de faire partie d'une équipe, de faire partie d'une famille, finalement, un petit peu différente. Et donc, on donnait du temps pour ça, et c'était pas toujours simple, mais les moments de grâce étaient vraiment d'autant plus des cadeaux. Alors, une anecdote, par exemple, il y avait à la maison 5, donc ils étaient à peu près 12 garçons par maison. Et donc chacun avait vraiment une personnalité différente, comme on pourrait voir ici. Et ils sont un peu obligés de cohabiter ensemble et en venant avec un petit peu leur fardeau et puis leur façon d'être. Donc là, il y avait Dylan, donc qui a été un jeune qui était très introverti, qui était scarifié, très rapproché sur les bras, qui voulait toujours être seul, voilà. Et il y avait Seba qui était trisomique et très très affectueux, toujours avec nous, faisait beaucoup de câlins. Donc Dylan ne s'entendait pas du tout avec Seba, qui lui faisait tout le temps des câlins, donc lui, il avait horreur de ça. Voilà, donc parfois c'était un peu problématique. Et une fois, on avait une session justement sur Laudato Si, et donc on avait lu des passages de l'encyclique, et ensuite on avait préparé un grand jeu pour vraiment qu'ils puissent s'approprier l'écologie, que ce soit pas juste un poids, faut faire attention, etc. Mais non, comment aussi, y a, voilà, les belles choses, les choses à faire attention, mais voilà, pour essayer de mettre ça en lumière, que ça devienne un petit peu concret. Donc on avait fait le jeu, donc Dylan ne participait pas à ces sessions, mais quand on a eu fini, on est sorti et Dylan arrivait, et là c'était le moment où justement les jeunes allaient planter leur arbre. Donc chacun choisissait un arbre, avait une plaquette, l'écrivait son prénom, etc. Donc je propose à Dylan, je lui dis, est-ce que tu veux venir avec nous pour planter ton arbre? Voilà, je tentais toujours le coup au cas où, et ça a marché. Il est venu avec nous. Voilà. Donc, on avait prévu plein de pelles de bêches, etc. Et donc, chacun faisait son trou. C'est quand même des gaillards, donc ils faisaient les trous rapidement. Et Seba, lui, il n'arrivait pas. Mais on laissait faire les jeunes, on avait le temps. Donc, on les laissait faire leurs trous à leur rythme. Et quand Dylan a eu fini de faire son trou, de planter son arbre, de mettre sa petite étiquette en rondin, il est venu aider Seba. Il l'a pris comme ça et il l'a aidé à, voilà, avec son pied à faire le trou jusqu'à temps que Seba puisse mettre son arbre dans le trou. Et ça, c'est vraiment des moments magnifiques. Enfin, ça paraît anodin, mais quand il y a tout le poids de tout ce qu'on connaît, et on s'est regardé avec les éducatrices et Pierre, et enfin, nous, on avait les larmes aux yeux. C'était vraiment un moment magique. Et là, on avait rien prêché, mais on avait créé un espace.
Voilà. Et aussi, être missionnaire, c'est aussi croire que l'Esprit Saint, il agit dans les cœurs. Alors, l'exemple clair pour nous, c'est justement quand le prêtre, il m'a demandé de s'occuper donc, de trois catéchumènes. Quatre catéchumènes pour les former. Ça faisait 4 mois, je pense, qu'on était arrivé au Chili. On arrivait à faire des phrases avec un sujet, verbe, complément de temps en temps. Donc, c'était vraiment très, très loin de ce qu'on pensait être capable de faire. Donc, quand il nous a dit ça, bah, comme Elisabeth vous l'a dit, je l'ai un peu reposé la question. Je crois que je lui ai posé 2 fois la question, un deuxième jour pour vraiment être sûr. Mais il était convaincu, notre prêtre, qu'on était les bonnes personnes pour faire ça. Sauf que nous, on se sentait pas du tout capable de faire ça. Donc, comment on a fait? On s'est dit, bon, bah, il faut quand même trouver une solution. Donc, en fait, on préparait nos textes en français, qu'on mettait dans un traducteur sur Internet qui nous ressortait en espagnol. Et après, pour pas être paumé pendant qu'on leur expliquait, en fait, on faisait une colonne à gauche, c'était en français, et à droite, en espagnol. Comme ça, si des fois, ils nous coupaient pendant qu'on faisait notre explicatif, on pouvait relire en français ce qu'on était en train de dire. C'est pour vous montrer à peu près notre niveau. Et ces jeunes, ils nous ont suivis pendant 30 séances d'une heure et demie. Donc, il n'y a que l'Esprit Saint qui devait être là. Hein. C'est pas possible autrement. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir, parce que je pense qu'on bafouillait sur chaque mot. Je pense que vous, quand vous prenez exemple un texte qui est fait en anglais ou en je ne sais pas quelle langue, vous le traduisez en français, vous le lisez, quand on le lit, on se dit non, mais c'est pas bon. Il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas du tout l'accent espagnol, donc ça devait être une douce catastrophe. Donc il n'y a que l'Esprit Saint qui pouvait être là pour nous aider. Quoi. C'est...
Ouais, et en mission, on découvre que ce n'est pas nous qui portons la mission, c'est la mission qui nous porte et l'Esprit Saint qui est à l'œuvre et qui rend les choses possibles. Donc je rappelle que la mission, ce n'est pas qu'au Chili, hein, c'est ici aussi.
Voilà, de retour en Suisse, on s'est dit « Ouf, fini !» Bon, ça n'a pas duré longtemps. On nous a appelé à prendre la responsabilité de la pastorale couple et famille, donc du canton de Neuchâtel. Alors, c'est quelque chose, on avait été actif en tant que volontaire avant, avec l'équipe, le couple qui s'en occupait avant, les Tornais, si vous connaissez, qui faisaient un super travail. Et Elisabeth les avait aidés à la mise en place du carnet. Et donc, ça nous a motivés à continuer. C'est vrai que c'était une autre approche, mais c'est toujours intéressant de faire ces préparations de mariage où il y a plein de couples qui viennent. C'est plus simple, ils ont le sourire, ils ont la banane, c'est sympa. Voilà, aussi des soirées, des week-ends de ressourcement pour les couples, les parents, les familles, aussi de l'écoute, et puis maintenant on fait même de la préparation de baptême. Alors, pour les préparations mariage, c'est intéressant parce que les couples, en général, ils ont le désir de se marier à l'église, ils trouvent que le bâtiment est beau, que l'ambiance est solennelle, tout ça. Mais parfois, ils sont souvent assez loin de la foi et ils ont souvent des gros a priori aussi. Alors nous, sur l'église, sur la façon dont l'église voit la vie du couple et ainsi de suite. Alors nous, on essaye un peu de leur donner, déjà de les rassurer, de créer du lien et puis aussi de les évangéliser en leur disant... En leur disant ce qu'on croit et ce qu'on pense bien.
Et là, c'est pareil, un petit peu comme Dylan et Seba, mais c'est des témoignages, des choses différentes. Mais il y a aussi des pépites, vraiment des moments. Alors, il y a un moment, un témoignage que je voudrais vous partager et qui s'est passé une deuxième fois cette année. Alors, je me dis que... Voilà, on sème, c'est pas nous qui récolterons, mais des fois, on a quand même une petite photo de la récolte. En fait, pendant la préparation au mariage, on leur fait faire beaucoup d'ateliers. Il y a aussi des topos et des témoignages. Et un des ateliers qu'on leur fait faire, c'est leur ligne de vie. On leur fait faire d'abord personnellement leur ligne depuis leur naissance jusqu'à leur rencontre. Des moments importants qui ont été clés pour eux, des personnes importantes, des projets. Voilà. Ensuite, on leur fait coller ensemble leurs deux lignes de vie et puis ils continuent ensemble depuis leur rencontre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et ils font le même exercice ensemble. Et puis, la session continue. Il y a plusieurs témoignages kérigmatiques qui montrent que quand on regarde dans le rétroviseur, le Seigneur a été présent de nombreuses fois. Et ensuite, on leur fait faire cet exercice. On leur refait faire reprendre toute la ligne de vie et marquer de manière concrète les hasards, comme dirait Einstein, Dieu se cache souvent derrière les hasards beaux, les petits miracles qu'il y a eu dans leur vie, les personnes qui ont été là, les mots qui ont été posés, les voyages, les pèlerinages, les choses qui ont été marquantes pour eux. Et ensuite, pendant un moment de partage, à la fin, il y a une fiancée qui a témoigné et qui a dit pour moi, la chose la plus marquante pendant cette session, c'était que pour moi, Dieu, c'était un concept, c'était abstrait, voilà, c'était comme ça. Et par tout le parcours qui a été fait, en fait, je me rends compte que Dieu, il a été là à chaque instant de ma vie. Et ça vous refait. Voilà, et ça s'est passé une deuxième fois cette année à la session de janvier. Et ça, c'est vraiment fort. Et on a découvert ici une chose en Suisse romande, qui est une terre de mission, non pas parce que les gens sont loin, mais parce que la foi est souvent silencieuse, intime, cachée. Ici, évangéliser, c'est créer des espaces de confiance, écouter, être attentif, accompagner, mettre en réseau, travailler ensemble, pardon. Et souvent, c'est très discret.
Alors même dans le travail, moi j'ai travaillé 20 ans dans une entreprise, on était une dizaine d'employés, et ils savaient que j'étais chrétien, ils ont suivi mon périple au Chili, voilà, tout ça. Mais pendant ces 20 ans, on se connaissait très très bien, j'ai quasiment jamais eu de questions sur ma foi, des choses comme ça. Et là, c'est vrai que depuis 2 mois, je travaille dans une autre société. On est à peu près à la même taille, une dizaine de personnes. Et j'ai 2 jeunes trentenaires qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah, t'es chrétien ? mais c'est quoi exactement, et qui se posent des questions et qui sont même déjà venus à une célébration. Alors moi, j'essaye des fois de les, bah, un peu de les accompagner en leur donnant des conseils, ou je leur ai donné des BD sur la foi. Et je pense qu'en fait, le missionnaire dans la Suisse romande, c'est un peu amener ces petites choses pour que la personne, eux, ces deux jeunes trentenaires, ils cherchent justement du sens à leur vie. Et je sens que bah, la foi permet justement de satisfaire ce besoin. Donc en conclusion, si nous devions répondre simplement à la question « Comment être missionnaire en Suisse romande ?», nous dirions bah, que c'est plusieurs points. Répondre aux appels. Alors Dieu, il ne nous envoie pas des WhatsApp hein, pour nous demander quelque chose. Il le fait en général à travers les autres, à travers nos frères et sœurs chrétiens. Alors, voilà, je vous invite à dire oui quand on vous propose quelque chose. Allez-y.
Voilà, oser sortir de son confort, de dire ah non, le vendredi soir, moi j'ai envie de rester tranquille. Sortir si on vous appelle.
Voilà, et puis, voilà, servir humblement sans attendre le résultat. Voilà, c'est le Seigneur qui récoltera. Nous, on est là pour semer, et c'est le Seigneur qui récoltera.
Et laisser de l'espace aux autres. Ils ont tout autant de valeur et de talent que nous.
Et en fait, la force des communautés chrétiennes, je pense qu'il réside en fait dans le faire ensemble avec amour.
C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes mes amis. Et accepter aussi de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre, de faire confiance. Ah, mais pourquoi la paroisse, ils font comme ça, et ces regroupements, et ces etc. Ben, je ne comprends pas, mais je suis au service.
Voilà, par contre, des fois, c'est vrai qu'il faut savoir dire non. Aussi cela quand c'est nécessaire, mais pas trop se préserver quand même. Voilà, on n'a qu'une seule vie, le Seigneur il a besoin de nous, et pour répandre sa bonne nouvelle de salut et son amour inconditionnel.
Alors, un petit bonus. En fait, on se rend compte de l'œuvre du Seigneur quand on regarde en arrière et que rien n'est arrivé par hasard. Et ça m'a inspiré un chant quand on était au Chili. J'ai écrit les paroles d'un chant qui s'appelle « Ven y levantate », ça veut dire « Viens et lève-toi ». Donc je l'ai écrit en espagnol et il a été mis en musique par le groupe de musique de la paroisse où on était au Chili. Use this feature. Please make sure your app is running and can access the internet. Je vais vous lire en français les paroles. Après, on vous le fera écouter. J'ai une bonne nouvelle que je veux vous annoncer avec joie. C'est un message de vie, d'amour, d'espoir et de foi vivante. C'est un amour qui aime au point de donner sa vie. Allons-y, frères et sœurs, soyons unis. Laissons éclater notre joie. Viens, lève-toi. Déconfinons notre joie. Sortez du confinement. Viens, marchons ensemble vers la vérité et la vie. Viens, lève-toi et que nos cœurs s'enflamment. Donne-moi la force et la grâce de bien proclamer ta parole. Fais de moi le bon instrument pour le salut des âmes. Alors, je voudrais vous dire, c'est un amour qui aime jusqu'à donner sa vie. Allons-y, frères et sœurs, soyons unis. Laissons éclater notre joie. Et il y a un des couplets qu'on a gardé en français, même dans la version espagnole, ils l'ont gardé aussi, et qu'on a chanté avec ma fille, on a participé à l'enregistrement, et le texte est le suivant. Seigneur, je sais que tu es toujours avec moi. Quand je regarde en arrière, je suis convaincue que rien n'est arrivé par hasard. Tu étais à mes côtés à chaque étape de mon chemin, aide-moi à répandre cet amour.
Seigneur, je sais que tu es toujours avec moi.